Bonsoir à tous et bienvenue sur la dernière radio libre de francophonie. Ce soir, Golgotha, épisode 3. Je vous propose une émission un peu hybride, à cheval entre le judaïsme et le christianisme, puisque aujourd'hui, nous fêtons Pâques, et Pâques, c'est sans doute la fête la plus importante du calendrier judéo-chrétien. Bien plus qu'une chasse à l'œuf en chocolat, plus importante que Noël, la rentrée des classes et le Black Friday, Pâques, Pascha en grec, Pessah en hébreu, ce qui signifie « passer au-dessus » ou « sauter par-dessus », c'est une fête juive à l'origine, celle qui célèbre la sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage, la séparation de la mer Rouge en deux, et pour les chrétiens, cette fête est le sacrifice du Fils de Dieu, la mort de Jésus, la passion du Christ, mais aussi sa résurrection. C'est donc beaucoup de choses à la fois. La fête de Pâques, c'est passer par-dessus la mort en Égypte pour les juifs, la mort du Christ pour les chrétiens, bref, une fête de la vie, de la lumière, de l'espoir et de l'émancipation. C'est en quelque sorte l'acte de naissance de nos sociétés à tous. Une histoire que je m'en vais vous raconter avec des musiques gospel en toile de fond, comme le veut notre tradition. Aujourd'hui, tout particulièrement, je vous passerai deux musiques en lien avec l'esclavage dans ce voyage qui nous mènera du Sinaï au Golgotha en passant par l'Égypte des pharaons. Pour ne jamais oublier qu'un jour, à l'équinoxe du printemps, un dieu s'est adressé à Moïse pour lui dire « Moïse, libère mon peuple, laisse-le partir d'Égypte ». Mais pour cela, il faut retourner à l'origine du peuple juif. Laissez-moi donc vous emmener, il y a fort longtemps, dans un pays lointain, très lointain. Prenons ensemble la route, remontons 3000 ans en arrière, dans une petite banlieue de Basse-Égypte, au bord du Nil et des fourneaux du Pharaon. Bienvenue dans le nouvel empire des pharaons. On est au tout début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et l'Égypte est au sommet de sa gloire. Elle a maîtrisé l'agriculture, irrigué les eaux du Nil et développé l'écriture. À l'époque qui nous intéresse, les hiéroglyphes ont déjà 2000 ans et on les retrouve un peu partout, sur les pierres, les papyrus, les poteries. On offrait même des scarabées sculptés sur lesquels on y écrivait quelques mots. À l'époque, scribe, c'était une très bonne situation. C'est même grâce à l'écriture que l'empire peut asseoir sa domination et sa bureaucratie. Les pharaons font bâtir des villes dans le désert, des statues d'un gigantisme à l'américaine et des pyramides tellement grandioses qu'on se demande encore aujourd'hui comment ils ont fait. C'est la grande époque des Akhenaton, Toutankhamon, Ramsès, Séti, Amenhotep. On vénère des dieux très anciens, Isis, Osiris, Horus, Ré. On leur dédie des temples un peu partout dans la vallée du Nil. Et côté industrie, on commence à plutôt bien maîtriser le fer qui remplace petit à petit le cuivre. On invente le verre, puis l'émail, qui offre de tout nouveaux champs de possibilités pour l'artisanat. La céramique, la poterie, les flacons deviennent de plus en plus raffinés, sans parler des parfums, crèmes pour la peau, maquillage et tissus. Bref, une chose est sûre, il y avait en Égypte une civilisation sans nul doute supérieure à tout ce qui avait été fait jusqu'alors. Or, pour qu'un empire pareil puisse tenir, ils avaient besoin de travailleurs. Des esclaves, ou plutôt des migrants, ramenés ça et là au rythme des conquêtes, l'Égypte, par sa supériorité technique et culturelle, c'était un peu le centre du monde. Ils viennent d'Anatolie, du Soudan, de Canaan, Hittites, Philistins, Cananéens, mais aussi un peuple à la tête dure, arraché d'une terre de désert et de montagne, les Hébreux. Tous ces esclaves servaient à apporter une main-d'œuvre pas chère, souvent très qualifiée, puisque le fer et les hautes températures sont maîtrisés depuis déjà très longtemps en Anatolie et au Levant. Et les Hébreux, leur spécialité justement à l'époque, c'était de fabriquer des briques. Matériaux nécessaires pour construire les bâtiments, les murs, les forteresses de l'Empire, un travail dur, physique, qui expose au feu et à la fumée, ce qui est important pour plus tard car c'est sans doute dans le feu de leur fourneau que les Hébreux avaient trouvé leur Dieu. Un Dieu unique, jaloux, ardent, qu'on trouve au centre de la terre, au sommet des volcans, dans les étoiles et le soleil, un Dieu de colère, bien plus puissant que tous les dieux qui régnaient alors en Égypte. Les Hébreux avaient une tradition, ils descendent tous d'un homme, Israël, et son père Abraham. Hébreu, ça vient du verbe avar, passé, car l'Hébreu, c'est celui qui est passé, qui a traversé le fleuve du Jourdain et qui est bloqué en territoire conquis, en Égypte. Les Hébreux sont donc esclaves, mais bien plus qu'un peuple, c'est avant tout une classe sociale, faite de travailleurs venus de l'Est, largement opprimés, ils n'ont pas les mêmes droits que les autres, et leur importance est telle que les pharaons imposent sur eux un contrôle des naissances. On raconte que tous les enfants mâles des Hébreux étaient jetés dans les eaux du Nil. En tout cas, c'est là qu'entre en scène le patriarche le plus fascinant de l'Ancien Testament, un petit garçon, un hébreu, sauvé des eaux et adopté par la fille du pharaon. Et mieux aurait-il fallu pour elle de ne jamais adopter ce petit gars, parce qu'il va littéralement mettre l'Égypte à genoux. Cet hébreu, il s'appelle Moïse. Moïse grandit donc au plus près de l'aristocratie égyptienne, ce qui n'était pas rare à l'époque. L'Égypte antique, c'est pas le Mississippi. On pouvait même, en étant esclave, grimper les échelons et vivre de manière relativement aisée. Un jour, Moïse voit un soldat égyptien battre à mort un hébreu, ce qui le dégoûte. Ni une ni deux, il se jette sur le soldat, le tue, libère l'hébreu et cache le cadavre de l'égyptien dans le sable. Moïse devient donc un criminel, il sait qu'il ne peut pas rester en Égypte. Il fouille dans le désert et là, c'est la révélation. Au détour d'un chemin, il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Une voix s'adresse à lui et lui dit « Moïse, laisse partir mon peuple ». Moïse n'y croit pas, il hésite. Un feu qui parle, en voilà une drôle d'histoire. Il demande « Mais qui es-tu ?» Et la flamme répond « Ayez Asher ayez, je suis celui qui est ». J'aime autant de vous dire qu'une flamme qui vous annonce ça au premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est relativement nouveau. Là, ce n'est pas un dieu avec un visage animal ou humain qui s'adresse à Moïse, c'est l'être même. L'être qui lui demande d'exiger de Pharaon la libération des Hébreux. Moïse retourne donc en Égypte pour voir Pharaon. Il s'adresse à lui « Pharaon, laisse partir mon peuple ». Pharaon rigole évidemment. « Qu'est-ce qui te prend Moïse? Ton peuple m'appartient, est-ce que tu crois que ton dieu me fait peur ?» Évidemment, ça c'est mal connaître le dieu de Moïse. On parle du dieu unique là, c'est pas de la petite magie d'un dieu à tête de chat. C'est toutes les lois de la nature qui vont s'abattre sur l'Égypte. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça, Pharaon? Moïse t'avait déjà mis en garde. Il avait fait changer son bâton en serpent et tu ne l'as pas écouté. Alors d'accord, Pharaon refuse de libérer les Hébreux. Les eaux du Nil se gorgent donc de sang. Des grenouilles envahissent le pays, des moustiques, des temps surgissent de nulle part pour apporter la peste. Tout le peuple a le corps couvert d'ulcères, une grêle jamais vue auparavant ravage les récoltes et des nuées de sauterelles détruisent la végétation. Moïse retourne voir Pharaon. Cette fois, Pharaon, laisse partir mon peuple. Hors de question qu'il répond, mauvaise idée, Pharaon, les ténèbres s'abattent pendant 3 jours sur l'Égypte. Privés de leur dieu du soleil, les Égyptiens sombrent dans le désespoir, mais Pharaon s'obstine, donc, au 3e jour, tous les premiers-nés furent tués par l'ange de Dieu, parmi lesquels le fils unique de Pharaon. Décidément, faut pas rigoler avec le dieu des Hébreux. Pour la dernière fois, Moïse demande « Pharaon, libère mon peuple », lequel, terrifié par la puissance de ce dieu, épuisé de lutter, prend sa décision. Il accepte la requête de Moïse, fichez le camp et ne revenez jamais. À partir de ce moment commence l'événement fondateur du peuple juif, ce qu'on appelle l'Exode. Tout un peuple se mit à quitter les villes de l'Égypte pour partir vers l'Est et retourner chez eux, en terre d'Israël. Un mouvement de foule comme jamais raconté nulle part ailleurs. Ils ont traversé la mer Rouge, marché 40 ans dans le désert avec leurs enfants et leurs bagages, nourris par du pain qui tombait du ciel et abreuvés par une source d'eau qui sortait du bâton de Moïse. Le peuple hébreu était aidé de son Dieu, guidé par son feu qui éclairait le désert. Et dans ce désert, sur le mont Sinaï, il leur a apporté une loi, la Torah. Une loi qui allait faire du Dieu unique le principe à la base de toute chose. Schéma Israël, écoute Israël, ce Dieu qui te mène vers la liberté, ce Dieu est unique. L'exode de l'Égypte jusqu'au Sinaï, ce n'est pas qu'une histoire juive, c'est l'acte fondateur de notre histoire à tous, celle d'un peuple qui, un jour, s'est libéré du joug de son oppresseur pour suivre une loi supérieure à la loi des empires. Une loi qui interdit le meurtre, le vol, le mensonge, qui te demande de respecter les anciens, mais surtout, une loi qui t'offre un jour de congé hebdomadaire, Shabbat, pour la perpétuité. La Torah, l'Exode, c'était la fin de l'esclavage, la promesse d'une émancipation perpétuelle. Et c'est un peu tout ça que les Juifs fêtent à Pessah, Pâques. Notamment autour d'un repas, le Seder, qui interdit toute pâte levée avec ce fameux pain azim, la matza, en souvenir de ce temps où les Juifs avaient dû fuir Pharaon et que dans la précipitation, ils n'avaient pas pu faire lever leur pain. Moïse, c'était l'homme qui marchait devant pour vous montrer le chemin. Ce qui nous mène à notre face A, Moses Don't Get Lost, une work song du sud des États-Unis, un disque enregistré en Géorgie par Alan Lomax et qui reprend ces vieilles traditions d'esclaves qui chantaient en questions-réponses sur fond de claquements de pieds et de mains. Ils chantaient pour rythmer le travail, se motiver, mais aussi livrer des messages. Tout naturellement, c'était l'histoire de Moïse, la traversée de la mer Rouge, qui leur servit d'inspiration. C'est à se demander si les maîtres blancs y avaient pensé. En enseignant ces histoires à leurs esclaves, ils leur ont donné une formule toute faite pour qu'ils trouvent leur émancipation. Alors Moïse, par pitié, ne te perds pas sur les chemins de la mer Rouge, car il nous faudra la traverser pour retrouver la liberté. John Davis et les Georgia Sea Island Singers, Moses, don't get lost.
Oh, Moses, Moses, don't get lost.
In the Red Sea.
Smart your rod and come across.
Boy, in the Red Sea.
Oh, Moses, Moses, don't get lost.
Boy, in the Red Sea.
Smart your rod and come across.
In the Red Sea.
Let's just talk about the ghost like the
Lord.
Le peuple hébreu, libéré d'Égypte, ayant reçu la Torah sur le mont Sinaï, s'installe, non sans mal, en terre de Canaan. L'une de leurs tribus, celle de Juda, fonde un royaume basé sur la loi de Dieu, et quelques invasions plus tard, babyloniennes d'abord, grecques ensuite, romaines enfin, et on se retrouve dans les années 30 de notre ère, où un certain descendant de la tribu de Juda, justement, Jésus de Nazareth, s'apprête à célébrer la sortie d'Égypte, l'Exode, autour d'un repas, le Seder de Pessah. Les Juifs avaient pour coutume, à l'équinoxe du printemps, de célébrer la sortie d'Égypte, Shamor Vezachor, garde et souviens-toi des lois de Dieu, ce Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Pessah, c'est donc une fête très importante, mais aussi très ancienne, elle est véritablement centrale dans le calendrier juif. À l'époque du Temple, elle servait aussi de point focal dans l'année pour tous les pèlerinages, ainsi, toutes les communautés juives du monde entier se retrouvaient au Temple de Jérusalem pour fêter l'Exode, Pessah. Pour l'occasion, Jésus avait demandé à l'un de ses disciples de lui louer une salle, les femmes avaient tissé des nappes, dressé la table, il y a donc tout pour faire le kiddush, la sanctification de ce jour saint. Traditionnellement, on bénit du pain azim, pour rappeler la fuite précipitée d'Égypte, on l'a dit, un peu de persil trempé dans de l'eau salée, pour rappeler les larmes, et enfin, on partage du vin, boisson typique des sacrements juifs. On raconte que l'ivresse qu'il produit est propice au lien social. Et boire du vin pour le céder de Pessah, c'est important, la tradition veut qu'on boive au moins 4 verres. C'est donc tout naturellement que Jésus partage le pain parmi tous ses disciples. Il en avait rassemblé 12, un pour chaque tribu d'Israël. Il verse ensuite le vin et il adresse ses paroles restées à la postérité. « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. » En rompant le pain, puis pour le vin, « Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour vous. » Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai avec vous dans le royaume de mon Père. À ce moment de l'histoire, on en a déjà parlé dans notre premier épisode de Golgotha, mais Jésus ne va pas très bien. Il sait que son message ne passera pas, il ne pourra pas lutter éternellement contre les maîtres du temple, sa fin devra être tragique. Il avait vu dans ses visions que l'un de ses disciples allait le trahir. En effet, le temple voulait l'arrêter depuis belle lurette, mais comme ils avaient peur de faire scandale pendant les festivités de Pessah, ils ont préféré appâter l'un de ses apôtres, Judas. Puis, le repas continuant, les langues commencent un peu à se délier, le vin aidant. « Amen, dit Jésus, l'un de vous va me livrer ce soir, et je serai mort d'ici demain. »« Quoi, mais non, s'étonnent les apôtres. Mais qui va te trahir, Jésus? Penses-tu que c'est moi ?» lui demande Judas. Jésus se tourne vers Judas. « C'est toi qui l'as dit, mon frère. Maintenant, va, fais ce que tu as à faire. » Judas s'en va, honteux, pour réaliser sa sinistre besogne, et Jésus s'adresse aux apôtres restants. « Mes enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous, vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où moi je vais, personne ne peut me suivre. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Cette fois, Dieu n'enverra pas les sauterelles pour empêcher la mort de son fils. Étrange quand on y pense, le premier à s'en étonner, c'était Jésus lui-même. Après le céder de Pessah, il s'en va prier sur le mont des Oliviers. Son esprit est troublé. L'évangile nous dit qu'il éprouvait de la déprime et des angoisses. « Mon âme est triste à mourir », avait-il dit. Il demande aux apôtres, « Je vous en prie, restez veillés avec moi. » Il s'isole 5 minutes, se met à implorer le Père, « Pitié, épargne-moi de ce destin. » Puis il revient, mais les apôtres se sont endormis. Ils n'ont même pas pu veiller avec lui. Jésus est seul, seul devant sa propre mort. Le reste, vous le savez, il est arrêté par le temple, un apôtre déchire l'oreille d'un soldat avec son épée pour protéger Jésus, mais Jésus demande de ne pas verser le sang. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Si je lui demandais, mon père m'enverrait 12 légions d'anges pour me protéger, mais alors, comment donc s'accompliraient les écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? C'est consciemment que Jésus va à la mort, il accepte la justice des hommes, car il était venu pour eux. Et à partir du moment où Jésus fut emprisonné, plus personne ne croyait vraiment en lui. Même Pierre, l'apôtre en chef, quand on lui demande, le renie. Jésus, non, connaît pas. La foule qui était plutôt favorable à Jésus se met même à l'insulter. Comment croire, en effet, un type qui se dit fils de Dieu et qui se laisse emprisonner comme le dernier des hommes? Pour son jugement, on lui demande, Jésus, est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu? Et il répond, ça c'est vous qui l'avez dit. Non seulement je suis le fils de Dieu, mais en plus, vous me verrez assis à sa droite le jour du jugement. Vous êtes des hypocrites, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis auprès de vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Bon, puisque Jésus ne fait rien pour sa défense, il est envoyé à Pilate. Pilate n'est pas très à l'aise, c'est une affaire de juifs, mais enfin, la foule veut quand même l'exécuter. Pilate décide donc de faire crucifier Jésus. On l'emmène sur le mont du crâne, le Golgotha, où il doit porter sa croix. Jésus est cloué sur la croix, ce qui est plutôt inédit. En général, on laissait mourir les crucifiés d'étouffement en les attachant, mais pas en les clouant. On lui déchire l'abdomen avec une lance, on lui donne à boire du vinaigre, sans oublier la couronne d'épines et le célèbre roi des Juifs, inscrit au-dessus de la croix, pour se moquer de lui. Il agonise pendant plus de 6 heures devant ses proches, qui ne peuvent rien faire. Sa mère, au pied de la croix, est en pleurs. Pendant ce temps, les soldats romains, quant à eux, jouent aux dés. Jamais aucun texte littéraire n'avait décrit pareille histoire. Avant d'expirer, Jésus s'adresse au ciel. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Car juste avant de mourir, au nom de Dieu, Jésus avait pardonné à tout le monde. Et tel sera l'acte de naissance de la mystique chrétienne. À l'instant de sa mort, les évangiles nous racontent que le ciel s'est obscurci, que la terre se mit à gronder. Les murs de Jérusalem ont tremblé comme ils allaient trembler 50 ans plus tard, le jour où Rome fera incendier le temple et comme Jésus l'avait prophétisé. « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai », avait-il dit. Et en effet, 3 jours après son exécution, on retrouve le tombeau de Jésus ouvert, à l'intérieur rien, juste le suaire qui avait enveloppé son cadavre. C'est un peu la panique, mais où est Jésus? Alors je vous rassure, personne n'a volé la dépouille de Jésus, non. Si on ne trouve pas Jésus dans le tombeau, c'est beaucoup plus évident. C'est parce qu'il est revenu d'entre les morts, il est revenu des enfers. Somme toute, comme il l'avait aussi annoncé. Il apparaît à 3 femmes d'abord, Marthe, Marie-Madeleine et Sarah, puis il part pour la Galilée où il surprend les apôtres qui étaient retournés à leur petite vie d'avant. Ils pêchaient sur le lac de Tibériade. « Les gars, qu'est-ce que vous faites? Ne vous ai-je pas demandé de baptiser les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? » et il sera pris au mot, car depuis cette apparition, les apôtres iront sillonner le monde pour annoncer ce qu'ils avaient vu, et de tout ça est née l'Église. Car cet événement avait tellement frappé les gens qu'aujourd'hui encore, ils se retrouvent une fois par an pour se souvenir de ce qu'il s'était passé. Et c'est à peu près tout ça que les chrétiens fêtent à Pâques. Comment Jésus est mort, comment il est revenu et comment il reviendra. Le vendredi saint, il fut crucifié et il est apparu le lundi de Pâques à Marthe, Marie-Madeleine, les apôtres, Sarah et bien d'autres. Israël, de la même manière, est né sur le mont Sinaï avec Moïse et l'Église est née sur le Golgotha avec Jésus le même jour. Il est venu le temps pour moi de vous passer notre face B, Johnny Cash encore une fois, avec Were You There When They Crucified My Lord. Pour l'anecdote, c'était la chanson préférée de Gandhi. Un très vieux Negro Spiritual, la plus vieille partition date de 1899, encore une chanson issue de l'esclavage, puisqu'elle était chantée dans les plantations. Comme pour Moses Don't Get Lost, ces chansons servaient aussi à passer des messages, la crucifixion du Christ étant ici une image de la souffrance du peuple noir, pendu, poignardé, et qui ne voit jamais le soleil se lever. Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur ? Étais-tu là quand ils l'ont pendu sur la croix ? Étais-tu là quand ils l'ont poignardé dans le cœur ? Étais-tu là quand le soleil a refusé de se lever ? Parfois, quand j'y pense, je me mets à trembler. Étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur ? Dans l'enregistrement que je vous passe, Johnny Cash est accompagné de sa femme, June Carter, et il joue devant Richard Nixon à la Maison Blanche. Comme pour rappeler au maître du monde libre d'où et surtout de qui il détenait sa liberté. Et toi, étais-tu là quand ils ont crucifié mon Seigneur ? Étais-tu là quand le tombeau s'est ouvert ? Étais-tu là quand lui n'était plus là ? Were you there when they crucified my Lord ?
Were you there when they crucified my Lord ? When the stone was rolled away, were you there when the stone was rolled away?
S'il n'y a aujourd'hui aucun doute sur le caractère historique de la crucifixion de Jésus, pour ce qui est de la sortie d'Égypte, c'est plus compliqué. Déjà parce que c'est un temps plus reculé, mais aussi parce qu'il n'existe pas de preuves archéologiques pour attester de l'Exode. Aucune preuve d'un tel mouvement de foule, pas de mention dans les chroniques égyptiennes, rien dans les scarabées commémoratifs, les correspondances de scribes sont muettes, il n'y a pas même la trace du passage de milliers de gens dans le désert du Sinaï. Mais alors quoi ? L'Exode serait un événement purement mythologique, un objet littéraire avant tout ? Pas sûr. Les historiens ne se mettent pas d'accord. Ce qu'on sait, c'est que l'Égypte connaissait les Hébreux, avant tout comme un peuple conquis. On les associe souvent aux Abirous, qui étaient moins un peuple qu'une classe sociale faite de nomades, de marginaux, de travailleurs détachés. On sait que les Hébreux avaient un dieu, Yah ou El, qui était à l'origine le dieu d'un volcan, qui devint ensuite dieu du feu, puis dieu unique. Mais sur la vie des Hébreux en Égypte, à part la Bible, on ne sait vraiment pas grand-chose. La seule certitude, c'est qu'ils vénéraient un dieu unique, Yah ou El, qui deviendra Yahvé, et c'était les premiers à le faire. Alors certes, il y avait bien Akhenaton, le pharaon, qui avait aussi proposé un dieu unique, Aton, un dieu qui s'incarnait dans un disque solaire, mais enfin, faut le dire, ça n'avait pas beaucoup d'allure. Aton n'est pas tout à fait un dieu unique, mais un dieu au-dessus des autres, puis son culte n'a pas duré très longtemps, 18 ans seulement, sur 3000 ans de polythéisme. Ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est que les Hébreux, qui étaient en Égypte, ont dû voir des ressemblances entre ce dieu Aton et le dieu qu'ils avaient vu dans le feu de leur fourneau. Si Exode il y a eu, ce fut un mouvement de population progressif, sans doute sur plusieurs générations, lié au déclin des grands empires, égyptiens et hittites, un basculement historique qui laisse la place aux petits royaumes, parmi lesquels un royaume qui avait recueilli beaucoup d'Hébreux. Quand l'Égypte se débarrassait de ses esclaves, n'ayant plus besoin de travailleurs et n'ayant plus assez de ressources pour nourrir toutes ses bouches, le royaume de Juda. Ce qui est certain, c'est que le jour de Pessah, qui célèbre la sortie d'Égypte, un homme est mort pour défendre l'idéal de Moïse. Si l'Exode était le symbole du passage au monothéisme strict, l'abandon définitif de l'Ancien Monde, la crucifixion de Jésus est le don de cette tradition au monde. Car il n'y avait aucune raison que le Dieu unique n'exige l'émancipation que d'un seul peuple. Jésus veut donner la loi des Juifs à tout le monde, et pour ce faire, il a exigé un nouveau commandement, celui de s'aimer les uns les autres, un commandement qui était déjà présent dans la tradition juive, mais qui n'en était pas vraiment central. Et c'est pourquoi cette fête, Pâques, est si importante, parce qu'elle représente une double libération. Pâques, c'est un aller-retour entre la vie et la mort, la naissance d'Israël au Sinaï, la mort de Jésus, sa résurrection, le cycle de la vie, à l'image du soleil et de la triade égyptienne, cette même triade d'Héliopolis qu'Akhenaton avait tenté d'abolir pour un dieu unique, mais une fois n'est pas coutume, les Égyptiens n'avaient pas entendu raison. Ce n'est plus le soleil levant, le zénith et le soleil couchant, mais désormais le Père, le Fils, le Saint-Esprit, une actualisation du dieu unique, celui qui était apparu dans le buisson ardent devant Moïse, un dieu qui n'est pas situé dans le monde intelligible de Platon, dans une cité inatteignable, mais un dieu qui se fonde dans le réel, dans le rapport à l'autre. Et c'est pourquoi Jésus a ajouté ce nouveau commandement juste avant de mourir, celui de s'aimer les uns les autres, de la même manière qu'il a pardonné à tout le monde sur la croix. S'il n'y a qu'une seule loi de Dieu, c'est celle-là. Et c'est aussi pour cette raison que le christianisme fut une religion qui s'est propagée partout dans le monde. Elle a rempli le vide spirituel qu'avait créé l'Empire romain, enseigné l'humilité à des peuples qui ne vénéraient que des dieux de la guerre. Elle a vivifié l'Éthiopie qui dormait depuis sa destruction par les pharaons, guidé l'Afrique vers son émancipation, apporté humanité chez ceux qui sacrifiaient des vierges et qui mangeaient des hommes. Pour donner ensuite nos philosophies modernes, nos états et leurs lois, libertaires, égalitaires, fraternels. Ce goût pour la charité, la solidarité, pour la justice aussi, si aujourd'hui les hommes de gauche comme de droite sont attachés à la notion d'individu ou de personne, c'est bien parce que un jour, quelqu'un a dit que le sens de tout ça, c'était d'être porté vers l'autre et de penser à son salut plutôt qu'au sien. Cette nouvelle morale, cette nouvelle alliance nous a apporté l'idée d'une humanité une et indivisible par-delà les classes et les races. Elle nous a sorti des particularismes ethniques, géographiques, pour nous rassembler autour d'une conduite simple. En quelque sorte, il y a eu une internationale avant Marx, et c'était l'Église catholique. Les autres religions avaient apporté du sens, des conduites à appliquer, certes, mais aucune n'avait apporté cet espoir, cette émancipation, ce sentiment de ne faire qu'un à l'échelle universelle. Moi, je vais vous laisser sur ces réflexions avec le disque The Weight d'Aretha Franklin, dans lequel Aretha nous raconte avec la puissance qui est sienne une petite fable d'inspiration chrétienne. Je suis descendu à Nazareth, j'étais éreinté d'avoir tant marché. Je cherchais pour me reposer un endroit où caler ma tête. Cher monsieur, pour une femme comme moi, pourriez-vous me trouver un lit ? L'homme me touche la main puis me sourit. Il n'avait pas de lit. Vite ton sac, Fanny, laisse-moi porter ta croix. Alors j'ai pris mon sac, ne sachant où me cacher. Le diable avec moi s'est mis à marcher. Vas-y, Moïse, tu n'as donc rien à dire. C'est pas comme si on était tous à souffrir, à languir du jugement dernier. Vite ton sac, Fanny, laisse-moi porter ta croix. Et toi, Luc, mon ami, est-ce que Fanny sera sauvée? Luc me répondit, prends soin des tiens et tout se passera bien. Pourtant, ma vie est un boulet de canon, partout j'ai posé mon sac. Mais quand, à Fanny, je lui ai demandé de m'aider, elle m'avait dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu pour toute l'humanité. Vide ton sac, Fanny, laisse-moi porter le poids, laisse-moi porter ta croix. Si d'aventure vous êtes atteint de crise de foi, je crois bien que la voix d'Aretha peut résoudre vos problèmes, car s'il y a un Dieu quelque part, et s'il peut se manifester à nous, il résonne sans doute dans cette voix, The Weight d'Aretha Franklin, en 1970. Merci de votre écoute, Pessa Sameach, une joyeuse fête de Pâques, et n'oublie pas, le vent souffle où il veut et tu en entends la voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Vide ton sac, Fanny, laisse-moi porter le poids, laisse-moi porter ta croix.